Chapitre 68. Charleston, mardi 16 juin 1981. Il était minuit passé, et Nathalie Preston avait l'impression d'être prisonnière d'un de ses cauchemars d'enfant. Durant l'été et l'automne qui avaient suivi la mort de sa mère, elle avait réveillé son père au moins une fois par semaine, profondément marquée par un événement survenu lors de la cérémonie funèbre. L'établissement funéraire était géré à l'ancienne mode, et on ne pouvait visiter la chapelle ardente qu'à heure fixe. Amis et parents avaient défilé pendant des heures devant le cercueil ouvert, près duquel Nathalie était assise, triste et muette, étreignant la main de son père. Elle n'avait cessé de pleurer durant les deux journées précédentes, et se trouvait à présent vide de larmes. Mais elle avait une forte envie d'aller aux toilettes et en informa son père. Il se leva pour la conduire dans la pièce voisine, mais un nouveau contingent de parents venait de faire son apparition et une vieille tante se proposa pour emmener Nathalie. Elle la prit par la main et lui fit traverser plusieurs couloirs et franchir plusieurs portes avant de lui faire monter un escalier et de lui désigner du doigt une porte blanche. Lorsque Nathalie ressortit, lissant soigneusement sa jupe bleu marine, la vieille tante avait disparu. Se fiant à son sens de l'orientation, Nathalie tourna à gauche au lieu de tourner à droite, franchit plusieurs portes, traversa plusieurs pièces, descendit un escalier et se retrouva perdue au bout d'une minute. Elle n'était nullement effrayée. Elle savait que la chapelle et les salles de réception occupaient une bonne partie du rez-de-chaussée et qu'elle finirait par retrouver son père en ouvrant la bonne porte. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que l'escalier du fond descendait directement à la cave. Nathalie avait examiné deux pièces complètement nues lorsqu'elle ouvrit une porte et découvrit des tables en acier, des rangées de gros flacons contenant un liquide sombre et de longues aiguilles creuses attachées à de fins tuyaux. Elle porta les deux mains à sa bouche, recula dans le couloir et fonça dans une large porte battante. Elle se retrouva au centre d'une grande pièce emplie de boîtes, avant que ses yeux ne s'accoutument à la chiche lumière filtrant à travers les rideaux tirés. Nathalie se figea. Un silence total régnait dans la pièce. Les objets qui l'entouraient n'étaient pas des boîtes, c'étaient des cercueils. Leur bois sombre semblait absorber la mauvaise lumière. Plusieurs couvercles étaient relevés, comme celui du cercueil de sa mère. À moins de 2 mètres d'elle, se trouvait une petite boîte blanche, exactement de sa taille, ornée d'un crucifix. Nathalie devait comprendre quelques années plus tard qu'elle était entrée dans un entrepôt ou dans une salle d'exposition, mais elle était pour l'instant persuadée de se trouver en présence d'une douzaine de cercueils occupés. Elle s'attendait d'une seconde à l'autre à voir les cadavres livides se dresser avec raideur, tourner la tête vers elle et ouvrir les yeux, comme dans les films d'épouvante qu'elle regardait avec son père le vendredi ou le samedi soir. Il y avait bien une autre porte, mais elle semblait infiniment lointaine, et Nathalie devrait passer à portée de 4 ou 5 cercueils noirs pour l'atteindre. Elle s'avança lentement, gardant les yeux fixés sur la porte, attendant que les mains pâles fondent sur elle, mais refusant de courir ou de crier. Cette journée était trop importante. C'était l'enterrement de sa mère, et elle aimait sa mère. Nathalie franchit la porte, monta un escalier bien éclairé, et arriva dans le hall près de l'entrée.
« Ah, te voilà, ma chérie !»
s'exclama la vieille tante, et elle la ramena à son père dans la pièce voisine, tout en la grondant, et en lui ordonnant de ne plus aller jouer n'importe où. Cela faisait une douzaine d'années qu'elle n'avait plus repensé à ce cauchemar. Mais à présent, assise dans le salon de Mélanie Fuller en face de Justine, qui la regardait avec des yeux de vieille folle dans son pâle visage joufflu, elle avait les mêmes réactions que dans son rêve, lorsque les couvercles des cercueils se levaient, lorsqu'une douzaine de cadavres se dressaient avec raideur, lorsque 2 douzaines de mains s'emparaient d'elle et l'entraînaient. Elle ne hurlait pas, mais ne cessait de se débattre, vers le petit cercueil blanc qui n'attendait qu'elle.
« À quoi penses-tu, ma chère ?»
demanda une voix sénile dans une bouche d'enfant. Nathalie sursauta, retrouvant sa lucidité. C'était la première fois qu'un mot était prononcé depuis que le petit garçon avait hurlé sa remarque incompréhensible, 20 minutes plus tôt.
« Que se passe-t-il »
demanda-t-elle. Justin haussa les épaules, mais eut un large sourire. On aurait dit que ses dents de lait avaient été taillées en pointe.
« Où est Saul ?»
Les doigts de Nathalie se posèrent sur le moniteur fixé à sa ceinture.
« Dis-le-moi »
ordonna-t-elle. C'était Saul qui avait eu l'idée de relier le boîtier de télémétrie aux explosifs, mais il n'avait pas voulu qu'elle puisse l'utiliser en présence de Mélanie. Ils avaient fini par arriver à un compromis. Plutôt que de déclencher l'explosion du C4, le moniteur était censé transmettre un signal au receveur dont Jackson était muni. Nathalie avait relié les fils au C4 dès que Saul était parti pour l'île. Durant les 27 heures qui venaient de s'écouler, elle avait espéré à plusieurs reprises que le vieux monstre allait tenter de pénétrer dans son esprit, déclenchant aussitôt l'explosion. Nathalie était épuisée et minée par la terreur, et il lui semblait parfois préférable d'en finir. Elle ne savait pas si le C4 pourrait tuer la vieille qui gisait à l'étage, mais elle était sûre que les zombies de Mélanie ne lui permettraient pas de s'en approcher davantage.
« Où est Saul ?» répéta-t-elle.
« Oh, ils l'ont capturé !»
répondit le petit garçon d'un ton insouciant. Nathalie se leva. Elle entendit des bruits dans les pièces voisines.
« Tu mens ?»«
Vraiment ?»
Justin sourit.
« Pourquoi ferais-je une chose pareille ?»
« Que s'est-il passé ?»
Justin haussa les épaules et étouffa un bâillement.
« Il est grand temps que je dorme, Nina. Et si nous poursuivions cette conversation demain matin ?»«
Dis-le-moi !»
Les doigts de Nathalie se posèrent sur le bouton de mise à feu.
« Oh, d'accord !» dit le garçonnet avec une moue. « Ton ami hébreu a réussi à échapper aux gardes, mais l'homme de Willy l'a capturé et ramené au manoir. »«
Le manoir !» souffla Nathalie.
« Oui, oui !»
Le petit garçon tapa du pied sur le fauteuil.
« Willy et Mr. Barent veulent lui parler. Ils sont en train de jouer. »
Nathalie regarda autour d'elle. Quelque chose bougea dans l'entrée.
« Est-ce que Saul est blessé ?»
Justin haussa les épaules.
« Est-ce qu'il est vivant ?»
Le garçonnet fit la grimace.
« Je t'ai dit qu'il voulait lui parler, Nina. Ils ne peuvent pas parler à un mort, n'est-ce pas ?»
Nathalie leva sa main libre pour se ronger un ongle.
« Il est temps de faire ce que nous avons prévu. »«
Non !»
rétorqua le petit garçon.
« La situation ne correspond absolument pas à celle que tu m'as demandé d'attendre. Ils sont en train de jouer, c'est tout. »«
Tu mens. Ils ne peuvent pas jouer si l'homme de Willy est dehors et s'il emmène Saul au manoir. »«
Ils ne jouent pas à ce jeu-là !»
dit Justin en secouant la tête devant une telle stupidité. Nathalie avait du mal à se rappeler qu'elle n'était qu'une marionnette de chair et de sang, manipulé par le cadavre en sursis qui gisait à l'étage.
« Il joue aux échecs. »«
Aux échecs ?»«
Oui. Le gagnant décidera de la nature du prochain jeu. Willy veut des enjeux plus importants. »
Justin secoua la tête comme une vieille dame.
« En bon wagnérien, Willy a toujours été fasciné par Ragnarok. Ça vient de son sang allemand, je présume. »«
Saul est blessé. »
« On l'emmène au manoir et ils sont en train de jouer aux échecs, » récapitula Nathalie d'une voix atone. Elle se rappela cette journée, 7 mois plus tôt, où Rob et elle avaient écouté Saul Lasky raconter une deuxième fois son histoire. Les camps de la mort et le château perdu au cœur de la forêt polonaise, où le jeune Oberst avait défié Der Alte pour une ultime partie.
« Oui, oui, » dit Justin tout heureux. « Miss Well va jouer, elle aussi. » Dans l'équipe de Mr. Barent. Quel bel homme !»
Nathalie recula d'un pas. Elle avait longuement discuté avec Saul de la marche à suivre en cas d'échec. Il lui avait recommandé de déclencher le détonateur à retardement et de s'enfuir. Même si en agissant ainsi, elle devait épargner Barent et sa clique. Elle pouvait également continuer à bluffer Mélanie, à lui forcer la main, dans l'espoir d'anéantir Barent ainsi que les autres membres de l'Island Club. Nathalie voyait à présent une troisième possibilité. Le jour ne se lèverait que dans 6 heures. bien qu'animée du désir de faire justice et de venger le meurtre de son père, elle se rendait compte que son amour pour Saul importait bien plus à ses yeux. Elle savait aussi que Saul n'avait fait que parler dans le vide, en évoquant la façon dont il se tirerait du guépier où il s'était fourré. Il n'avait aucun plan. Nathalie savait que son désir de justice exigeait d'elle qu'elle suive le plan à la lettre. Mais son cœur ne se souciait guère de justice en ce moment. Elle devait avant tout trouver un moyen de sauver Saul.
« Je vais m'absenter quelques minutes, » dit-elle avec fermeté. « Si Barent essaye de quitter l'île, ou s'il se produit ce dont je t'ai parlé, fais exactement ce que nous avons décidé. »« Je parle sérieusement, Mélanie. Je ne tolérerai aucun échec. Ta propre vie en dépend. Si tu échoues, l'Island Club tentera sûrement de te tuer, mais je t'aurai tué avant. Tu as compris, Mélanie ? »
Justin la regarda sans rien dire, un léger sourire sur son visage poupin. Nathalie se détourna de lui et se dirigea vers l'entrée. Quelqu'un se déplaça vivement dans les ténèbres, franchit le seuil de la salle à manger. Justin la suivit. Quelqu'un bougea sur le palier de l'étage et on entendit du bruit dans la cuisine. Nathalie s'arrêta dans l'entrée, le doigt toujours posé sur le bouton rouge. Les électrodes lui picotaient le cuir chevelu. « Je serai revenu avant l'aube, » dit-elle. Justin leva les yeux pour lui sourire, le visage modelé par la faible lueur verte qui émanait de l'étage. Cela faisait 6 heures que Poisson-Chat surveillait la maison Fuller lorsque Nathalie en sortit. Ce n'était pas prévu. Il appuya 2 fois sur le bouton d'appel de la petite Sibby, produisant ce que Jackson appelait un « couinement » et s'accroupit derrière les buissons pour voir ce qui allait se passer. Il n'avait pas encore aperçu Marvin, mais dès qu'il l'aurait repéré, il tenterait d'arracher son chef des griffes de la sorcière vaudou, quoi qu'il arrive. Nathalie traversa la cour d'un bon pas, puis attendit qu'une silhouette indistincte lui ouvre le portail. Elle traversa la rue sans regarder derrière elle et tourna à droite devant la ruelle où s'était posté Poisson-Chat plutôt que de se diriger vers l'endroit où était garé Jackson. Ça voulait dire qu'elle était sans doute suivie. Poisson-Chat couina 3 fois, avertissant Jackson qu'il devait faire le tour du pâté de maison pour gagner le point de rendez-vous, puis il se tapit dans sa cachette et attendit la suite des événements. Dès que Nathalie fut hors de vue, un homme émergea de l'ombre et traversa la rue en courbant les épaules. La lueur du réverbère arracha un reflet bleuté au canon de son pistolet. Un automatique de gros calibre, apparemment.
Merde !
Poisson-Chat attendit 1 minute pour vérifier qu'un 2e larron ne suivait pas le premier, puis il longea la rue, se cachant derrière les voitures garées près du trottoir côté est. Il ne reconnaissait pas le type au pistolet. Il était trop petit pour qu'il s'agisse de ce monstre de Kelley qu'il avait aperçu dans la cour, et trop blanc pour qu'il s'agisse de Marvin. Poisson-Chat courut en silence jusqu'au coin de la rue, rampa sous les buissons et jeta un coup d'œil à la scène. Nathalie était arrivée à mi-chemin du pâté de maison et se préparait à traverser. Le type au pistolet s'avançait lentement dans l'ombre de ce côté de la chaussée. Poisson-Chat couina à 4 reprises et le suivit, rendu invisible par son anorak et son pantalon noir. Il espérait que Nathalie avait débranché son foutu C4. Les explosifs le rendaient nerveux. Il avait vu les bribes de chair qui restaient de Leroy, son meilleur pote, quand ce crétin avait fait exploser la dynamite qu'il transportait. Poisson-Chat n'avait pas peur de la mort. Il n'espérait pas atteindre les 30 ans. Mais il voulait que son cadavre soit en un seul morceau, un corps souriant, vêtu de son plus beau costume à $700, afin que Mercy, Sheila et Belinda puissent pleurer sur lui toutes les larmes de leur corps. Averti par le signal, Jackson remonta la rue à toute vitesse et se gara sur la gauche de la chaussée pour protéger Nathalie pendant qu'elle montait. Le type au pistolet cala son arme sur le toit d'une Volvo et visa le reflet d'un réverbère sur le pare-brise, juste devant le visage de Jackson.
« Ça a dû sacrément chauffer chez la sorcière vaudou, » pensa Poisson-Chat. « La vieille doit être furax. »
Il se mit à courir, porté par ses Adidas à $50 parfaitement silencieux, et faucha les jambes du type au pistolet, lui faisant perdre l'équilibre. Il heurta du menton le toit de la voiture, et Poisson-Chat lui cogna la tête contre la vitre, par acquis de conscience, attrapant son arme et en bloquant le percuteur par mesure de sécurité. Les acteurs de cinéma se lancent les flingues comme des jouets, mais Poisson-Chat avait vu des frères se faire descendre par des armes tombées à terre. « C'est pas les gens qui tuent les gens », pensa-t-il en allongeant le type dans l'ombre sur le trottoir. « C'est ces putains d'armes à feu !» Jackson couina deux fois lorsqu'il s'éloigna avec Nathalie. Poisson-Chat regarda autour de lui, vérifia que le type était toujours dans les pommes et appuya sur le bouton d'appel.
« Hé, frangin, qu'est-ce qui se passe ?»
La voix de Jackson était déformée par l'appareil bon marché réglé à faible volume.
« Nathalie n'a rien, mec. Et toi, ça va ?» « Il y avait un type avec un gros 45 qui en voulait à ta gueule, mec. Maintenant, il dort. »«
Il dort, hein ?»«
Comme un ange. Qu'est-ce que j'en fais ?»
Poisson-Chat était armé d'un couteau, mais ils avaient décidé de ne pas laisser traîner de cadavres dans ce quartier blanc et bien fréquenté.
« Planque-le dans un endroit calme, » dit Jackson.
« Génial, d'accord. »
Poisson-Chat traîna l'homme inconscient dans un fourré sous un saule pleureur. Il s'époussa et appuya sur le bouton.
« Qu'est-ce que vous allez faire, tous les deux? Vous revenez par ici ou vous partez en lune de miel ?»
La voix de Jackson était déformée par la distance.
« Plus tard, mec. Reste cool. On reviendra. Planque-toi. »«
Merde. Tu vas promener ta nana et moi je reste dans cette putain de ruelle. »«
C'est ça l'ancienneté, mon vieux, » dit Jackson d'une voix à peine audible. « Je faisais partie du Soul Brickyard que tu n'étais qu'une bosse dans le calbar de ton père. Planque-toi, mon frère.
Va te faire foutre !»
Poisson-Chat ne reçut aucune réponse. La voiture devait être hors de portée. Il empocha la Sibi et regagna la ruelle à pas de loup, s'assurant que la sorcière vaudou n'avait pas lancé d'autres soldats à l'attaque. Cela faisait moins de 10 minutes qu'il s'était planqué entre une poubelle et une clôture, se repassant un souvenir vidéo, arrêt sur image et avance rapide, de Belinda dans un lit du Chelten Arms, lorsqu'il entendit un murmure dans la ruelle derrière lui. Poisson-Chat se releva d'un bond, faisant jaillir son cran d'arrêt de sa poche. L'homme qui se dressait devant lui était trop grand et trop chauve pour être réel. Quelet lui fit sauter le couteau de la main d'un revers de sa grosse patte. De la main droite, il le saisit à la gorge et le souleva au-dessus du sol. Poisson-Chat cessa de respirer, sa vision se brouilla, mais alors même que l'étau de chair se refermait autour de son cou, il shoota dans les couilles de l'homme montagne et lui asséna sur les oreilles deux coups à lui crever les tympans. Le monstre ne daigna même pas broncher. Alors que les doigts de Poisson-Chat se tendaient vers ses yeux, il accentua la pression sur sa gorge. On entendit un craquement, et Poisson-Chat se retrouva avec le larynx brisé. Quelet jeta le corps agité de spasmes sur le gravier et l'observa d'un air impassible. Son agonie dura 3 bonnes minutes, durant lesquelles aucun atome d'air ne put franchir sa gorge obstruée. Quelet dut lui planter une botte sur la poitrine pour l'empêcher de faire trop de bruit. Puis il récupéra le couteau et effectua quelques expériences destinées à prouver que le jeune noir était bien mort. Il alla ensuite au coin de la rue, souleva le corps inanimé de Howard et, sans effort apparent, transporta ses deux fardeaux dans la maison qu'éclairait seulement une lueur verte à l'étage. Il se remit à pleuvoir alors qu'ils étaient à mi-chemin de Mount Pleasant. Jackson tenta une nouvelle fois d'appeler Poisson-Chat, mais la distance et le mauvais temps semblaient avoir eu raison de la Sibie.
Tu penses qu'il s'en tirera ?
Nathalie s'était débarrassée du C4 dès qu'elle était montée dans la voiture, mais elle avait gardé le moniteur sur elle. Un signal d'alarme retentirait dès l'apparition du rythme Theta. Cela ne la rassurait guère. Son seul espoir était que Mélanie hésite à remettre en question l'autorité de Nina. Elle se demanda si elle n'avait pas signé son propre arrêt de mort en disant au vieux monstre qu'elle n'était pas un pion de Nina.
« Où est son chat ?» dit Jackson.
« Ouais, il est pas né de la dernière pluie. Et puis il faut bien que quelqu'un surveille la maison pour s'assurer que la sorcière vaudou ne va pas foutre le camp. »
Il jeta un coup d'œil à Nathalie. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise strié de pluie sur un rythme monotone.
« Il y a un changement de plan, Nat ?»
Elle acquiesça. Jackson fit passer le cure-dent qu'il susautait d'un coin de sa bouche à l'autre.
« Tu vas aller sur l'île, pas vrai ?»
Nathalie poussa un soupir. « Comment l'as-tu deviné ?»«
Le pilote habite dans ce coin. C'est lui que tu as appelé cet après-midi pour lui dire que tu avais peut-être du boulot pour lui. »
« Oui, mais je pensais plutôt aller le voir demain quand tout serait fini. » Le cure-dent changea encore de place.
« Est-ce que tout sera bien fini demain, Nathalie ?»
Nathalie regarda droit devant elle, par-delà le pare-brise que l'averse rendait opaque.
« Oui, »
dit-elle avec fermeté.
Debout dans la cuisine de son mobil-home, son corps malingre enveloppé dans un peignoir bleu mangé au mythe,
Daryl Mix lorgna ses deux hôtes encore dégoulinants.
« Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas deux révolutionnaires noirs en train de m'embarquer dans un complot à la con ?»«
Rien, » répondit Nathalie. « Je vous demande de me croire sur parole. Les salauds dans cette histoire, c'est Barent et sa clique. Ils ont capturé mon ami Saul et je veux le tirer de là. »
Mix gratta ses joues mal rasées.
« En venant ici... « Vous n'avez pas remarqué qu'il pleuvait des cordes et qu'il soufflait un vent de force 2 ?»«
Si, » dit Jackson, « on a remarqué. »«
Et vous voulez aller faire un tour en avion, c'est ça ?»«
Oui, »
dit Nathalie.
« Je ne sais pas quel est le tarif pour ce type d'excursion, » dit Mix en ouvrant une boîte de bière Pabst.
Nathalie sortit une grosse enveloppe dessous son pullover et la posa sur la table de la cuisine. Mix l'ouvrit, hocha la tête et sirota sa bière.
« 21 375 $ et 19 cents, »
dit Nathalie. Mix se gratta le crâne.
« Vous avez cassé la tirelire de l'OLP exprès pour moi, hein ?»
Il avala une longue gorgée de bière.
« Et puis merde, la nuit est idéale pour voler. Attendez-moi ici pendant que je me change. Servez-vous une bière, si c'est pas interdit par le règlement du KGB. »
Nathalie regarda la pluie arroser la piste, des rideaux de pluie qui l'empêchaient de distinguer le petit hangar situé à 40 mètres de là.
« Je vais avec toi, » dit Jackson.
« Non, » répondit-elle distraitement, sans cesser de regarder autour d'elle.
« Dis pas de conneries, » gronda Jackson.
Il souleva la lourde sacoche noire qu'il avait récupérée dans la voiture. « J'ai du plasma, de la morphine, des bandages, toute une trousse de secours. » Qu'est-ce qui se passe si tu réussis à ramener ton copain et s'il a besoin d'un toubib? T'as pensé à ça, Nat? Suppose que tu réussisses à le faire sortir de l'île et qu'il meure pendant le voyage retour.
C'est ce que tu veux?
D'accord.
Je suis prêt,
dit Mix depuis l'entrée. Il portait une casquette bleue aux armes des Yokohama Taiyo Whales, un vieux blouson d'aviateur en cuir, un jean, des baskets vertes, et un ceinturon pourvu d'un holster qui abritait un Smith & Wesson calibre 38 à canon long et à crosse de nacre.
Deux règles à respecter. Primo, si je dis qu'on ne peut pas atterrir, ça veut dire qu'on ne peut pas. Et je garde quand même un tiers du fric. Secondo, ne dégainez pas cette saleté de colt dans mon zinc si vous n'avez pas l'intention de vous en servir et vous n'avez pas intérêt à l'utiliser comme argument pour me convaincre. Ou alors vous rentrez à la nage.
D'accord,
dit Nathalie. Nathalie n'était montée qu'une fois dans des montagnes russes en compagnie de son père et avait sagement décidé de ne jamais renouveler l'expérience. Leur trajet fut 1000 fois pire. La cabine du Cessna était minuscule, chaude et humide. Le pare-brise était une véritable cascade et Nathalie ne sut qu'ils avaient décollé que lorsque les secousses qui agitaient l'appareil gagnèrent encore en intensité. Le visage de Mix, éclairé par la seule lueur rouge du tableau de bord, paraissait à la fois démoniaque et débile. Nathalie était sûre que la terreur qui l'habitait la faisait paraître également débile. De temps en temps, Jackson faisait un bond sur la banquette arrière et poussait un juron, puis le silence n'était plus interrompu que par la pluie, le vent, divers gémissements mécaniques, le tonnerre et le ronronnement pitoyablement ténu du moteur.
« Jusqu'ici, ça va !»
dit Mix.
« On ne va pas pouvoir monter au-dessus de cette merde, mais on l'aura laissé derrière nous avant d'atteindre Sapelo. Jusqu'ici, ça baigne.
Il se tourna vers Jackson.
Nam?
Ouais.
Troufion?
Toubib, dans le 101e.
Jusqu'au Deros?
Non. J'étais en lerp avec deux copains quand un connard d'ARVN a fait sauter sa clé mort.
Les deux autres s'en sont tirés?
Non. On les a renvoyés chez eux dans des sacs à viande. On m'a offert une autre médaille et on m'a rapatrié juste à temps pour voter pour Nixon.
T'as fait ça?
Tu déconnes?
Ouais.
Jamais un politicien ne m'a rendu un service, à moi non plus.
Nathalie regarda les deux hommes sans rien dire. Le Cessna fut soudain illuminé par un éclair qui sembla transpercer son aile droite. Au même instant, une bourrasque tenta de le renverser cul par-dessus tête, et il descendit de 200 pieds comme un ascenseur privé de son câble. Mix tripota un levier, tapota un voyant où une boule noire et blanc tournoyait comme un radeau dans la tempête, et bâilla.
« Encore 1h20 !»
dit-il en étouffant un autre bâillement.
« Jackson, il y a une thermos quelque part à tes pieds, et aussi des cookies, je crois. Sers-toi un peu de kawa et fais passer. Moi, je veux une hostesse ding-dong. Vous voulez quelque chose, Miss Preston? En tant que passagère de première classe, vous avez droit à un repas offert par la compagnie. »
Nathalie se tourna vers la vitre.
« Non, merci !»
Un éclair déchira une masse nuageuse 1000 pieds en dessous d'elle, lui révélant des fragments de nuages noirs, flottant comme des oripeaux d'une robe de sorcière.
« Pas tout de suite !»
Elle essaya de fermer les yeux.